Oui, bonjour Daniel, c'est Guy de Dijon. Dis-moi Daniel, si tu es encore en Colombie, profite pour nous ramener cette chère Ingrid, hein, que ce soit pas le petit nombril à pattes qui la sorte, ça ferait des ordres. Toi, t'es un autre personnage. Allez, à bientôt et continue. Au revoir Daniel.
Ah, c'est beau l'Auvergne, une terre fertile en hommes politiques, après Pompidou, Giscard, et après Pierre Laval, Brice Hortefeux.
Ma mère va payer la redevance de télé. Elle a 93 ans et elle vit de la reversion de mon père, soit environ 500 euros par mois. Comme elle a 93 ans, elle consomme plus de médicaments que moi. Mais les 50 centimes non remboursés sont plafonnés, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Elle consomme également beaucoup de médecins. 1 euro. C'est pas grand-chose. Elle fait du diabète. Alors, forcément, il y a des analyses. Il faudrait peut-être la tuer. Ça ferait des économies pour la sécurité sociale et pour les caisses de retraite. Ma mère va payer la redevance de télé. C'est normal, après tout. Elle y passe la plupart de son temps. J'ai envie de vomir. C'est Bernard de Grasse.
Bonjour, jeudi 6 décembre, donc jour de la Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas, patron des écoliers lorrains, vous invite au repère là-bas, si j'y suis, de Longwy, au Gamin de Paris, à partir de 19h. Le café se situe à Longwyau, à côté de Jean Sport 2000. Merci, venez tous refaire le monde. En ce moment, on en a bien besoin. Au revoir.
Je voulais rappeler à tous les amis qui écoutent France Inter que il est bon en ce moment de lire Métamorphose du travail d'André Gorce. On parle de travailler plus, on parle de plein de choses et je pense que cette lecture serait nourrissante pour beaucoup de gens, beaucoup de citoyens. A plus, c'était Jean-Paul Lyon.
Bonjour Daniel, j'appelle pour demander à tous les auditeurs de signer en ligne un appel aux parlementaires européens à rejeter le projet de directive retour. On peut signer cet appel à refuser une directive sur l'expulsion des étrangers en situation irrégulière sur le site www.directivedelahonte.org. Il faut savoir que cette directive prévoit d'allonger la durée légale de rétention des sans-papiers jusqu'à une période de 18 mois. Et qu'elle pourrait également instaurer une interdiction pour 5 ans de revenir en Europe pour toutes les personnes qui ont été renvoyées. Donc moi je pensais que le projet européen s'était construit sur des valeurs humanistes et la construction européenne prend une orientation qui devient de plus en plus dangereuse et que voilà, on vous demande de refuser. Donc merci de signer cet appel sur www.directivedelahonte.org. Allez, salut et bon courage.
Oui, à propos du quoi ça, RFI, mardi 4 décembre 2007, vers minuit et demi, dans le journal de 24 heures en France, le journal de l'Outre-mer. Écoutez bien.
Bonsoir, l'interrogation à Mayotte après le naufrage d'un Kwasa-Kwasa, naufrage qui a fait 2 morts. L'accident s'est produit à la suite d'une collision entre la petite embarcation de fortune et une vedette de la police qui tentait de l'intercepter. Le bateau transportait une 40aine de personnes, en majorité des clandestins. Abdoullah Madala, RFO Mayotte.
43 personnes d'origine comorienne avaient pris place à bord de l'embarcation à Anjouan. D'après la préfecture, il était près de minuit et demi quand la barque a chaviré au large de la baie de Cani, au sud de Mayotte. Reste à savoir exactement dans quelles circonstances. D'après les témoignages des rescapés, c'est la vedette venue les intercepter qui a provoqué le naufrage. J'étais à bord, on n'a pas coulé. Quand les policiers de la force nous ont repérés, ils nous ont forcé de suivre sans même demander aux passeurs d'arrêter le moteur. Le chauffeur par les deux embarcations a cassé le barque. On se retrouvait à l'eau. À l'hôpital où les rescapés avaient été accueillis, on apprenait juste de sources policières qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. Ce drame survient alors que les interpellations se multiplient.
Voilà. Donc, d'après un témoin, le bateau de la passe a percuté exprès cette pirogue, ce quoi ça. Voilà. On espère que Monsieur Sarkozy aura le temps d'aller voir les familles des deux disparus, puisqu'il est si prompt à aller voir les familles des victimes. Allez, je vous laisse.
Salut Daniel. Vraiment, je bois du petit lait depuis quelques jours, là, car ton émission nous plonge au cœur de la problématique colombienne. Tu montres bien comment les autorités ont cherché à embrigader la population dans sa globalité. C'est-à-dire que dans les années 90, les FARC ont remporté certains succès militaires. Notamment, rappelle-toi, cette zone démilitarisée, si je ne m'abuse, de 42 000 km². Donc, avec l'arrivée du Rivet, des conservateurs au pouvoir, ont été mis en place des unités anti-guérilla, notamment pilotées par Washington. Le problème, c'est que malgré l'argent détourné, notamment du plan Colombie, mis en place par Clinton, la lutte anti-guérilla est très coûteuse, notamment en hommes. Il est très dur d'occuper un terrain en zone hostile difficile, propice aux embuscades. Donc, il y a eu un développement d'une stratégie, c'est-à-dire c'est la population qui va tenir le terrain. Donc, pour cela, il faut la regrouper, l'encadrer, identifier tout ce qui ressemble à un homme politique progressiste, à un syndicaliste, 214 tués selon la Fédération internationale des droits de l'homme en 2004, les responsables associatifs et bien sûr les journalistes un peu trop curieux dans ton genre, un peu trop subversifs. On les menace, on les élimine. On organise la terreur ciblée, comme on vient de le voir, et arbitraire, parce que l'arbitraire de la terreur, c'est un de ses principes fondamentaux. Selon l'adage, toute personne qui n'est pas avec nous est contre nous. Si ça ne te rappelle pas quelqu'un, si ça ne te rappelle pas un petit bonhomme qui habite une grande maison blanche à Washington et dont le grand-père faisait des affaires avec les capitalistes du Troisième Reich. Voilà, à bientôt, ciao.
Voilà, merci pour ces analyses et ces appréciations. Et effectivement, on continue aujourd'hui le voyage en Colombie. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit sur l'accident, entre guillemets, survenu au large, enfin tout près des côtes de Mayotte, ce petit bateau de fortune qu'empruntent les sans-papiers comoriens pour essayer de venir vivre mieux à Mayotte a été naufrage et en présence d'une vedette de la police. Alors y a-t-il eu un mouvement de cette pirogue qui s'est retournée, qui aurait été provoquée par la vedette de la police? L'enquête le montrera. Mais ça fait partie effectivement des doutes que peuvent avoir les habitants de cette région, connaissant la puissance de ces vedettes, de la police de l'air et des frontières. Et on voit que les interpellations se multiplient. Et oui, il faut faire le chiffre avant la fin de l'année. 2 morts, 8 disparus en tout cas dans cette catastrophe. Donc on continue pour ce qui nous concerne en Colombie avec les habitants de San José de Apartado qu'on retrouve dans leur marche en hommage aux 4 d'entre eux qui ont été tués le mois dernier par les paramilitaires. Eux, ces paysans qui veulent rester neutres, coincés qu'ils sont entre la guérilla et les paramilitaires liés à l'armée colombienne. Auparavant, quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base CGSU au 01 56 40 37 37 et 1. Et on commencera cette heure avec un témoignage d'une ancienne guérillera qui vient de déserter la guérilla des FARC et qui a connu et qui a été au service, peut-on dire, d'Ingrid Betancourt. Ce sera un témoignage en tout début de cette heure en Colombie. D'abord vos messages.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Martine, militante syndicale de la Caisse d'allocation familiale de Melun en Seine-et-Marne. Oui, moi je voulais préciser qu'aujourd'hui, 6 décembre, les salariés de la sécurité sociale de tous les organismes sociaux sont en grève. Ce mouvement, pourtant manifestement suivi, n'a eu que très peu d'écho dans les médias, ce qui est évidemment très regrettable, mais on s'y attendait. Les salariés n'en peuvent plus, ils sont exaspérés de ne plus être en capacité de rendre le service public qu'ils doivent assurer aux allocataires. salaire. Du fait du non-remplacement des postes, des départs en retraite, des mutations, ils sont sous-payés, leurs qualifications ne sont pas reconnues. La perte de la sécurité sociale s'accélère. Il y a urgence à réagir tous ensemble, salariés et assurés sociaux. Nos bas salaires, la non-reconnaissance de nos qualifications vont de pair, bien sûr, avec des dégradations des conditions de travail, des réductions massives d'effectifs, des mutualisations d'activités et des fusions d'organismes qui entraînent une dépréciation du service public. De nouveau, je l'ai dit, il y a urgence, Daniel, il y a urgence. Il faut que chacun se rende compte de ce qui se passe dans les cases de la Sécu et de la dégradation qu'on est en train d'exercer en ce moment. On est en train, effectivement, de dépeupler des services entiers pour pouvoir mieux les transférer au privé et pouvoir mieux les mutualiser, les isolant comme ça un peu plus les populations qui demandent pourtant une proximité de ces services sociaux. Eh bien, écoute, Daniel, merci à toi pour tous tes messages et j'espère que le mien passera pour que chacun prenne conscience de la difficulté des salariés de la sécurité sociale à l'heure actuelle.
Salut Daniel, salut aux auditeurs de France Inter et de là-bas si j'y suis. Alors ce jeudi soir à Pertuis dans le Vaucluse, nous vous donnons rendez-vous à 19h à Hakuna Matata. C'est quoi cette denrée ? Ben, c'est un bar-théâtre associatif situé place de la Diane et nous vous donnons rendez-vous pour un repère là-bas si j'y suis. Nous ne ménagerons pas nos ménages quant à la grande question que tous nous nous posons. Mais qui donc est le Père Noël ?
Quoi ? Quoi, qu'est-ce que tu dis, Marie ? Quoi ? Ah oui.
Alors, un élément de réponse, on sait qu'il ne l'est pas. À ce soir.
C'est bon, là, Marie ? Bonjour et merci de nous donner la parole. Simone de Nanterre. Je vais vous lire le texte de 6 universitaires des universités de Paris 3 et de Paris 10 Nanterre. La voix des universitaires inquiets doit être entendue. Parmi les quelques 100 000 enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants, ingénieurs qui composent aujourd'hui la communauté scientifique française, aux côtés des étudiants et du personnel administratif et technique, nombreux sont ceux qu'inquiètent profondément la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Cette loi, qu'on ne saurait en effet résumer par les mots simplificateurs, privatisation et désengagement de l'État, semble en effet non pas inutile. Il est urgent que des mesures concrètes et efficaces soient prises en faveur du système universitaire français, mais incomplètes et dommageables. Pourtant, la LRU, qui a été votée cet été dans la précipitation et sans véritable concertation, dont il est dit qu'elle serait la panacée pour réformer l'université, source de nombre de maux, doit être mise en application dès l'an prochain au mépris des objections raisonnées qui s'expriment sur des modes divers quant à son interprétation. Il est temps en effet que soit entendue la voix des enseignants-chercheurs, inquiets, mais aussi indignés de voir traiter de telle façon l'université qu'ils représentent et à laquelle ils ont fait le choix de consacrer leur vie professionnelle. Non que cette voix ait été muette au cours de ces dernières semaines. Bien au contraire, cette loi fait l'objet de discussions passionnées dans les UFR, départements et laboratoires, depuis l'élaboration du projet en 2007, qui a fait suite à la réforme LMD, actuellement dans sa deuxième phase.
C'est très facile, tu es ici. Ici, on tue tranquillement. Alors, j'ai très peur pour Ingrid ici.
Y entendemos claramente que tiene la fortuna Ingrid Betancourt de ser ciudadana francesa.
Il faut dire que Ingrid Betancourt a la chance d'avoir la citoyenneté française.
Yo tengo casi 40 años.
J'ai presque 40 ans.
Y siempre hemos estado en guerra.
O sea, on a toujours été en guerre.
La jugada superior Comcel, la señal de Comcel.
Et moi, ce que je vois en ce moment sur la télé, dès qu'on allume la télé ici, c'est les concours de Miss Beauté. C'est pas les histoires sur la guerre et les conflits et les otages.
Sí, es que aquí ustedes todos entienden que los medios de comunicación de este país son de los grandes empresarios y dueños de las grandes multinacionales también del país.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que les médias appartiennent.
Ellos viven de entre los reinados, el dinero y el whisky.
Effectivement, les médias appartiennent aux grandes familles, aux grands industriels de ce pays, et eux, ils vivent entre les reines de beauté et le whisky. C'est ça leur ambiance quotidienne.
Y las alfombras rojas.
Et les tapis rouges.
Il va falloir qu'on connaisse la vérité. Et comment on peut expliquer qu'il y a 40 sénateurs des groupes d'Uribe en prison ?
Salut, c'est Daniel Mermel. J'y suis avec Antoine Chao, Guy Vanctil, Colombie, la mort facile, les preuves de vie.
La base de Suisse. Escuchen, escuchen la base de Suisse.
Flight number 2, arriving from Kyoto.
Racontez-nous un peu. Nous, on ne sait rien de vous, sauf une seule chose, c'est que vous avez été dans la guérilla et vous avez été la cuisinière d'Ingrid Betancourt.
Si. Ah, pues que les cuento, pues yo conocí a Ingrid Betancourt desde cuando fue secuestrada.
Eh oui, moi j'ai connu Betancourt depuis qu'elle a été arrêtée, depuis qu'elle a été prise en otage.
Ella fue secuestrada cuando vino a hacer campaña política en la antigua zona de Espeje.
Donc elle a été prise en otage quand elle est venue faire de sa campagne dans l'ancienne zone qui était démilitarisée.
Y pues en ese instante pasó a manos del Mono Jojoy, yo era tropa del Mono.
Donc elle a été attrapée par la troupe de Mono Jojoy.
Y pues el distante que va a cargo nosotros y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocerla con Clara.
Donc moi je travaillais dans ce groupe là et donc j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer avec Clara,
son assistante.
Clara Rojas,
oui, Clara Rojas, tout à fait.
Donc vous étiez là au moment où elle a été arrêtée.
Sí, porque ellas fueron llevadas a la guardia del Mono Jojoy.
Oui, parce qu'elles ont entregadas. Elles ont été amenées à la garde rapprochée de Mono Jojoy.
Et vous, quel était votre rôle là-dedans?
Moi, j'étais une guerrière interne.
C'est quoi interne?
Interne, c'est portait diariamente les armes, constantement.
Donc j'étais armée tous les jours, je portais les armes.
Non, salía la población civil.
Je ne sortais pas en ville.
D'accord, en uniforme.
Sí, claro, mantenía uniformada diario. 11 años duré uniformada.
Oui, j'étais en uniforme, j'ai passé 11 ans sous l'uniforme.
11 ans?
11
años. Sí, señor, 11 años. Entré 13 años y salí 26.
Oui, oui, monsieur, j'ai commencé à 13 ans et je suis sorti à 26.
Mais ça fait peu de temps là que vous êtes sorti.
Sí, ya va a cumplir 3 meses que salí.
Oui, ça fait 3 mois que je suis sorti.
3 mois?
Sí.
Et comment vous êtes...
Mais j'ai même pas 3 mois, à peine.
Et comment vous êtes sorti? Pourquoi?
A ver, porque cuando cumplí los 10 años de guerra, ya comencé a aburrirme. Aburrirme allá estar entre el monte, entre la selva.
Parce qu'au bout de 10 ans de combat, j'ai commencé à m'ennuyer, j'en avais marre d'être dans la jungle. Et je voulais voir ma famille, ça faisait 12 ans que je voyais personne de ma famille.
Surnommé Juanita, on ne donnera pas son vrai nom, on l'a rencontré à Bogota et demain on sera plus longuement avec elle, elle nous racontera comment elle s'est engagée dans la guérilla, dans sa quasi-enfance, comment elle y est restée 11 ans, ce qu'elle y a fait, ce qu'elle y a vécu et cette amitié qui est née entre elle et Ingrid Betancourt. Elle nous dira aussi, Juanita, comment si Ingrid Betancourt se présentait aux élections de 2010, comment elle aimerait, elle, la guérillera, l'ex-guérillera, l'aider et faire partie de sa liste. Quelqu'un dit, elle a de la chance d'être française, Ingrid Betancourt, et ça on nous l'a dit souvent au cours de ce voyage en Colombie. Elle a de la chance d'être française, Ingrid Betancourt. Et on nous l'a dit parfois gentiment, parfois moins gentiment, parce que c'est un petit peu, ça veut dire, il n'y en a que pour elle, quoi. Il n'y en a que pour elle, il y a d'autres otages. Et puis, je le disais avant-hier, il y a tous les Colombiens, au fond, qui sont en otage dans ce pays, pris dans ce conflit armé qui dure depuis plus de 40 ans. La situation de ce pays, hormis Ingrid Betancourt, et qui elle-même se préoccupait, et se préoccupe toujours, informée qu'elle est, comme on le sait assez régulièrement, du sort de ce pays. La Colombie est le plus grand cultivateur de cocaïne légale et le plus grand producteur de cocaïne au monde. La Colombie est l'un des principaux fournisseurs d'héroïne du marché des États-Unis. C'est le premier producteur de faux dollars états-uniens. La Colombie a le nombre le plus élevé d'enlèvements et d'assassinats commandités. Elle occupe la deuxième place pour le nombre d'enfants liés à la guerre et d'habitants touchés par les déplacements internes. Il y a entre 3 et 4 millions de déplacés à travers ce pays. La Colombie est le premier pays latino-américain exportateur de prostituées. Elle a la deuxième plus grande guérilla marxiste au monde, les FARC. La Colombie est le plus grand producteur de passeports de la communauté européenne et d'euros de grande qualité. En 2006, la police a démantelé une usine dans laquelle on falsifiait les difficiles dollars australiens. Inévitablement, dans de telles circonstances, la corruption est rampante. Je vous lis quelques lignes de Francisco Toumi, un observateur avisé de la scène colombienne. C'est dire si ce pays souffre et ce pays vit difficilement. Et comment, effectivement, les 40 et quelques millions de Colombiens peuvent être considérés comme pris en otage entre des forces qui les dépassent terriblement et qui elles-mêmes se dépassent, sont dépassées par la propre logique de ce conflit armé qui, on va le voir, dure depuis plus de 40 ans et dont chacun profite, y compris, et peut-être avant tout, je dis bien peut-être avant tout, le pouvoir actuel en Colombie. En encourageant, il y a 40 ans, la création de milices privées, d'autodéfense, soutenues, on l'a vu, et créées en partie par les États-Unis à l'époque, eh bien les pouvoirs successifs en Colombie ont installé une véritable terreur d'État, un terrorisme d'État, où le pouvoir politique, financier et militaire et paramilitaire ensemble tiennent ce pays. Ça s'appelle la parapolitique. Ce scandale éclate actuellement. Ce que dit Yolanda, la maman d'Ingrid Betancourt, en début de cette heure, vous l'avez entendu, elle dit qu'il faudra quand même un jour qu'on nous explique pourquoi il y a 40 personnalité politique autour du président Uribe qui sont actuellement en prison. C'est ça que nous évoquons, c'est là-bas si j'y suis, c'est jusqu'à 16h sur Inter.
Là-bas j'y suis. Écoutez là-bas j'y suis.
Alors, compère Sylvio, on ne te voit plus par ici. Et non, tu sais bien qu'il faut se cacher quand on est coincé entre l'épée et le mur. Paysan, je suis paysan. Je vis dans la montagne, dans une cabane en bois. Je laboure la terre avec mon bœuf Marcelo. Et avec mes enfants, je garde les vaches. Depuis quelque temps, tout a changé. Et je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. On entend arriver les bottes des différentes bandes armées et on se retrouve entre l'épée et le mur. Ils nous menacent, ils nous poursuivent et ils veulent enrôler nos enfants et leur donner un fusil pour continuer la guerre. C'est avec les deux parties qu'il faut collaborer. Quelle inquiétude et quelle peur éternelle. Et on ne sait pas comment ça va finir. Quand arrivent les guerrilleros, les paramilitaires ou les forces armées,
j'ai l'impression qu'on avance dans un milieu un peu hostile, non?
Oui, oui, ça va.
Je sens des regards qui ne sont pas tous sympathiques.
Pas tous. ils ont demandé une autorisation de la mairie pour la marche.
Mais vous avez quand même l'autorisation?
Non.
Ah bon?
On n'a pas d'autorisation. C'était une manifestation de résistance, de protestation.
manifestations de résistance et de protestation par la communauté de paix de Saint-Rosé de Apartado. Je résume très rapidement leur histoire. Ces paysans menacés et chassés par tantôt la guérilla, tantôt par les paramilitaires, ont fini par créer un espace, un village, une communauté qui refuse obstinément de collaborer avec les forces de la guérilla comme avec les forces paramilitaires et militaires, puisque ces forces sont liées. Et depuis des années, depuis 10 ans et même davantage, les autorités, les pouvoirs publics leur mettent la pression, les persécutent littéralement, puisqu'ils ont plus de 180 d'entre eux, des paysans, des leaders paysans, qui ont été assassinés au cours de ces 10 années. Mais ils continuent, mais ils résistent, mais ils s'organisent, et là, nous sommes avec eux, et vous avec eux aussi, pour cette marche, une marche de 12 kilomètres dans les bananeraies, sous la pluie, dans ce paysage du nord-ouest de la Colombie. Et là, on arrive dans la ville d'Apartado, une ville complètement dédiée à la culture de la banane, qui est sous l'empire, on peut dire, de Chiquita, la banane de Chiquita. Donc tout le monde travaille pour la banane, et c'est aujourd'hui cette région et notamment cette municipalité est contrôlée par les paramilitaires. Il faut comprendre que au départ, ces paramilitaires étaient des milices de défense contre la guérilla, mais peu à peu, grâce au narcotrafic, ces paramilitaires se sont enrichis et devenus des véritables puissances à l'intérieur du pays, une puissance financière, une puissance politique. Aussi, les leaders de cette paramilitaire déclaraient récemment qu'ils avaient plus d'une cinquantaine d'hommes et de femmes d'ailleurs à eux à l'intérieur du Congrès. C'est dire la puissance de ces paramilitaires, et c'est ce fameux scandale de la parapolitique que l'on dénonce à son de trompe à Bogota, mais ici localement, c'est bel et bien paramilitaires et les parapolitiques qui sont au pouvoir. Et c'est dans cette ville, sous ce ciel bas et gris, que nous entrons avec ces paysans, certains à cheval, les femmes portant des fleurs, des panneaux, des enfants, avec protestant contre les assassinats, évoquant la mémoire des leurs. Et avec effectivement des regards assez hostiles, et on va comme ça jusqu'à la place du marché, un très beau marché d'ailleurs, hein. Mais pas très beau ce jour-là, parce qu'on vient y célébrer le lieu où deux paysans de la communauté ont été récemment assassinés.
On vient d'arriver, c'est la fin de la marche, on arrive dans le marché sur cette place. Pourquoi on arrive là?
Oui, afortunadamente estamos en este lugar porque ha sido un lugar donde ha sido asesinado un joven Héctor Jaime, le corregimiento San José.
Ici, il y a un jeune du groupe de San José qui s'est fait assassiner.
Héctor Jaime.
Mm-hmm. C'était un jeune de la communauté de San José qui s'est fait assassiner. À qui mismo?
Ah, si, ici, en la place de Apartado.
Ici, dans la place d'Apartado. Ah.
Alors là, toute la marche est arrivée là, sur cette place du marché. Tous ceux qui ont marché jusque-là se sont mis... C'est assez grave, hein, les gens ont des airs assez graves. Des fleurs, des chapeaux, des banderoles. Beaucoup de gens des communautés indigènes, en costume. Et le père s'apprête à lire quelque chose, on l'entend évidemment, le Larsen. Et il y a des croix de bois qui circulent.
Esta comunidad de San José es una comunidad de paz.
Cette communauté de San José est une communauté de paix qui est dédiée depuis plus de 10 ans à construire la paix. Mais pas la paix de la résignation, pas la paix du silence, la paix de l'harmonie de tous ensemble, la paix qui est le fruit de la justice, qui est le résultat de la solidarité, la paix qui n'oublie pas ceux qui sont tombés, tués par la barbarie de ces assassinats, mais qui veulent vivre avec la mémoire. Et cette mémoire est un chemin que nous poursuivons petit à petit. Maintenant, nous allons écouter cette chanson de la paix.
Que el sueño es verdad. Dame tu mano, princesa. Dame tu mano, princesa. Vamos conmigo al jardín para que veas un ser el fin. Adorando tu belleza, oh, 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 oh.
C'est fou quand même, hein, ce qu'on voit là. Dans ce marché, c'est un marché tout à fait normal, classique d'Amérique latine, avec les chapeaux, les fruits, les couleurs, le populo, les images classiques, sauf que là, sur ce grillage, eh ben, on est en train d'attacher des croix en bois à la mémoire des gars qui se sont fait assassiner au coin de la place de ce marché. Et c'est à leur mémoire qu'a lieu cette marche et cet hommage. Les femmes entourent l'endroit où on est en train d'attacher ces croix, avec des fleurs, les gamins, les banderoles. Alors, il y a les noms des gars qui sont écrits sur ces croix de bois attachées à un grillage.
Francisco Puerta, Héctor Orozco, c'est les deux premières croix.
Tout le monde est très recueilli, mais ça n'empêche pas aussi, après une marche assez longue quand même, 12 km à pied, de se taper une glace ou un peu d'eau. Mais c'est un très très bel hommage, c'est très courageux. Il y a toute une notion de dignité ici, hein. Il y a quand même retrouver de la dignité. Parce qu'il faut bien dire que ce qu'on voit là, c'est pas seulement un hommage, il n'y a aucune enquête, rien, aucune justice. Les auteurs des crimes courts toujours sont peut-être derrière dans ce marché. Et on est dans un état de non-droit, dans un état où il n'y a pas de droit.
En esta estrategia genocida del Estado colombiano con sus paramilitares.
Decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí.
Ahí asesinaron a un compañero ahí en esa esquina.
Ils ont assassiné un de nos camarades juste là dans le coin là.
Qui les a assassinés?
Los paramilitares. Y allá los policías. Y los policías estaban ahí observando.
Juste à côté, ils observaient.
Ça t'en es sûr?
Sí, está seguro. Muchos testigos que estaban ahí en el momento y.
Y había beaucoup de témoins qui étaient là à ce moment-là.
Sí. Eso fue el 14 de septiembre.
C'était le 14 septembre.
¿Por qué razón? ¿Es que tú has una idea? ¿Qué razón?
No, pues solamente porque eran del sector de San José de Apartado.
No, solamente porque eran de San José de Apartado.
Sí, porque era un padre de cinco padre de 5 hijos.
Un père de 5 enfants.
Et lo mataron porque era auxiliar de la guerrilla.
Ils l'ont tué parce qu'ils ont prétendu qu'il était sympathisant de la guerrilla.
Si.
Et ce qu'on voit là, là, est-ce que le procureur est intervenu? Est-ce que la justice a été saisie? Est-ce que les autorités ont déclenché une enquête?
Non, il n'y avait pas un prononciamiento.
Non, non, il n'y a pas de procès pour l'instant, il n'y a pas de jugement.
Rien, la police ne fait rien, les autorités ne font rien, la justice ne fait rien.
Absolument
rien. Rien du tout.
Si, non. Listo?
Pas bien. Il n'a pas envie de trop rester par ici, j'ai l'impression.
Ah bon?
Il veut qu'on y aille.
Alors, il y a toujours un climat de peur dans ce pays, de terreur intériorisée dans ce pays. Ingrid Betancourt est devenue une icône nationale, à juste titre, sans aucun doute, mais elle est aussi devenue, il faut la voir, comme l'icône de la vacuité médiatique. Parce que, au-delà des images qu'on nous montre et qui sont terribles et qui ne peuvent que nous interpeller, on en reste là. On en reste à l'émotion. En 5 ans, depuis février 2002, Ingrid Betancourt est otage en Colombie. Qu'est-ce que nous avons appris sur les protagonistes du conflit armé, sur le contexte politique, social, historique? Par exemple, Yolanda, encore elle, la maman d'Ingrid, s'adresse et est interpellée. Je l'ai répété plusieurs fois, mais je crois qu'il faut vraiment insister régulièrement par tous les médias du monde. Mais quand elle dit que le monsieur Uribe, je vous hais, eh bien la phrase ne passe pas, et ça nous semble important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Entre 2002 et 2006, il y a eu 20 000 homicides en Colombie, et les paramilitaires sont responsables de 60% de ces crimes. Les chiffres oscillent entre 60 et 70%, et la guérilla est responsable d'environ 20%, 20 à 25% de ces crimes, les autres étant des crimes de droit commun. Et ça, c'est des chiffres qui sont fournis par la commission colombienne des juristes. Et il faut ajouter à ça, encore une fois, parce que c'est très important, les déplacements de population, 3,5 millions de personnes qui viennent s'agglutiner dans les bidonvilles autour des villes, notamment à Bogota, dans Ciudad Bolivar, on ira dans ces bidonvilles, dans ces cités. Et ces déplacements sont opérés par les paramilitaires qui évacuent les paysans, les indigènes, les communautés indigènes, les communautés afro-colombiennes qui les spolient de leurs terres, qui les chassent, qui les terrorisent et qui s'approprient leurs terres. Parce qu'actuellement, il y a ces opérations de démobilisation qui sont très douteuses. Mais qui permettent, en tout cas, qui ne remettent pas en question l'appropriation par les paramilitaires de ces immenses territoires qui se comptent par dizaines de milliers d'hectares, qui sont destinés à blanchir évidemment l'argent des narcotrafics et à installer les fameux palmiers à huile qui doivent servir pour dans le cadre de la politique des agro-carburants. Tout cela, c'est quand même extraordinaire qu'en 5 ans, depuis qu'Ingrid Betancourt est détenue, on n'ait pas réussi à nous l'apprendre. Voilà pourquoi nous continuons le voyage en Colombie.
Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucao. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucao. Trabajo en el campo, en donde el gallo me anuncia el día, y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas y al menos pan. A mí nadie viene, sino cuando llegan las elecciones, vienen a joder es que con los colores y los doctores que el cambio harán. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucao. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucao.
Je suis paysan, travailleur et honnête, mais on me roule dans la farine.
et on s'occupe de moi qu'au moment des élections. C'est à peu près ça, les paroles.
Comment te llamas?
Je suis Vladimir Arteaga.
Vladimir Arteaga Guerra.
Yeah.
Et tu as quel âge?
Et 21.
21.
Tu les as déjà croisés, les paracos, les paramilitaires?
Non, pues, je crois que si uno con el ejército.
Avec l'armée, oui, oui.
Éramos tres jóvenes.
Y entonces, jeunes.
Nos estuvieron como hasta las 8 por ahí en el camino.
Ils nous ont retenus jusqu'à 8 heures là-bas sur le chemin.
Nos tomaron como quien dice como de carne cañón en el medio de ellos.
Et ils nous ont pris comme bouclier humain là pendant les combats.
Que teníamos que ir ahí en medio de ellos hasta que ellos llegaran al pueblo.
On était obligés d'aller devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivent ici au village.
Y si algo pasaba, si les llegaban a disparar, los primeros que llevamos éramos nosotros.
Alors s'il se passait quelque chose, si on leur tirait dessus, les premiers qui tombions, c'était nous.
Vous faisiez les boucliers humains pour l'armée, contre les attaques de la guérilla?
L'ejército nacional.
C'était des militaires, oui, l'armée régulière.
Pour pas que les FARC les attaquent.
Pues sí, porque es que además, es cierto, ellos aparecen donde uno menos espera, pueden hacer...
Oui, oui, parce qu'ils apparaissent des fois où vraiment où tu les attends pas, quoi.
Y estaba seguro que si pasaba eso, l'ejército era capaz de matarlo o alguna cosa a uno también.
Alors on était inquiets parce qu'ils étaient capables de nous tuer si quelque chose arrivait, se passait, les militaires étaient capables de nous tuer.
Había uno que nos decía que no, que si querían que corrieran.
Il y en a qui nous disaient, si vous voulez, vous avez qu'à courir.
Que ellos les disparaban, los mataban y les colocaban cualquier revólver vivo por ahí, ya pasaban como guerrilleros.
Y ellos decían, si nous on vous tire dessus, on vous abat, après on vous met un fusil ou une arme dans la main et vous passerez pour des guerrilleros.
Pasa como guerrillero ya.
Y pasa por un guerrillero tombé au combat.
Y así lo hacemos nosotros tranquilamente. Nosotros hacemos así, pues.
Ils ont dit, nous on fait comme ça, tranquillement. Puis voilà, ça passe comme ça.
Et les guerrilleros, tu les croises des fois?
Sí, pues ellos también, como digo, ellos aparecen, por lo menos piensa.
Ah oui, non, mais eux, tout d'un coup, ils déboulent, on ne sait où.
Que bajan, que por ejemplo, hace poco ahí atacaron a un camión del ejército que iba por la carretera.
Bon, il y a peu de temps, ils sont venus, ils ont attaqué un camión des militaires qui passait sur la route, là.
Y que ellos aparecen por ahí de pronto, cuando
voilà,
despiensa.
Tout d'un coup, ils déboulent, quoi.
Y luego desaparecen, se van otra vez.
Mais après, ils disparaissent aussi sec.
Et toi, t'as jamais eu envie de te battre?
Pues no sé, yo pues personalmente no, nunca he querido porque pues no es cierto, uno si está en contra de la violencia, ya sé la violencia.
Personalmente no, porque yo soy contra la violencia, pero si t'es contra la violencia...
Personalmente no.
Mira, ¿qué es lo que quieres hacer, tú? ¿Cómo tu ves tu avenir? ¿Tú vas a rester ahí?
¿Qué quieres hacer?
¿A la comunidad de paz?
Pues es muy difícil, o sea, el futuro uno lo ve pues... Con todos los proyectos que tiene el gobierno de exterminar a la comunidad y todo eso.
Bah, nous, le futur, avec le gouvernement qui a des projets d'exterminer la communauté.
Entonces, uno, pues aquí continúa hasta donde pueda, ¿cierto? El campo, toda la comunidad. Y...
Bah, nous, on continue tant qu'on peut avec la terre, les champs.
Hay un grupo que está estudiando, yo estoy estudiando también. Y
pues, donc, il y a quelques-uns d'entre nous qui étudient, moi aussi.
A ver si terminamos. Si...
On va essayer de terminer notre.
Puede hacer una carrera, no sé. Pues...
Tu te vois aller vivre à la ville, à Medellín, okay, à Bogotá.
La ciudad es muy difícil.
No, no, la ville, c'est très dur, la ville.
No está acostumbrado a eso y...
No, nous, on n'est pas habitué à ça, quoi.
Entonces creo que en el campo hay más libertad y...
A la campagne, il y a plus de liberté.
¿Y le fiancé?
Ahorita no tengo novia.
En ce moment-là, non, j'ai pas de fiancé.
La estoy consiguiendo para esta Navidad. Y...
Oui, mais j'en cherche une pour les fêtes de Noël. ¿Le vas a pedir al Papa Noël?
Eso.
C'est ton cadeau de Noël que tu vas demander au Père Noël, c'est ça?
Claro, el niño Dios y todo eso.
Oui, j'ai demandé ça au petit Jésus et tout ça, là.
Bon, bah alors, joyeux Noël.
Bueno, feliz...
Feliz año. Navidad.
Sí, sí. Las víctimas que han caído en medio de la comunidad lo seguiremos recordando porque son la dignidad. La dignidad del pueblo que han estado pisoteando, adelante llevaremos y con ellos marcharemos. Siempre diremos a la muerte no más, porque siempre lucharemos aquí en la comunidad de paz para que haya dignidad, para que haya trabajo y que no nos asesinen y nos den la libertad.
Et voilà le rap de la paix et du village de la paix, de la communauté de la paix. On va retrouver, pour finir cette heure ensemble, Ravir Géraldo, qui est prêtre jésuite et de la mouvance théologique de la libération et qui répond à toutes les questions qu'on se pose. Il est très expert, hein, il écrit, il est, je l'ai dit, correspondant, enfin il correspond régulièrement avec Noam Chomsky et il est connu pour ses bouquins, pour les observations qu'il fait régulièrement sur la vie en Colombie, sur le conflit armé. Conflit qu'il vit, lui, de l'intérieur de cette communauté. Il faut dire aussi, faut rappeler que les paramilitaires sont utilisés par les multinationales, par le business en général, notamment, on l'a évoqué hier, dans la lutte contre les syndicalistes. Il y a de nombreuses affaires qui mettent en cause les paramilitaires. Et voilà ce qu'en pense Javier Giraldo.
Quels sont les liens des paramilitaires avec les grandes entreprises? Je pense à Chiquita, Brandt, avec aussi Drummond, Coca-Cola, etc.
La plupart des entreprises transnationales agissent dans les régions de violence, la région de guérilla ou la région de guerre, et ils se sont appuyés sur les paramilitaires comme une espèce de défense, une armée privée. Ils sont escortés par les paramilitaires.
Comme un bras armé.
Oui, un bras armé, c'est ça. Même, par exemple, le président des États-Unis, Bush, et le vice-président Cheney, ils sont beaucoup d'intérêts économiques dans plusieurs entreprises de pétrole qui agissent ici en Colombie. Et ils sont envoyés une armée pour protéger la pipeline, un soldat tous les 5 mètres. Et ça coûte une quantité énorme, des millions de dollars. Mais c'est pour protéger leurs intérêts dans le pétrole. Et aussi dans les entreprises de charbon, par exemple, et dans les entreprises de l'or.
Aussi. Et même pour la lutte contre la cocaïne, puisque c'est l'entreprise Dyncorp, qui est une de ces private military companies, compagnie de sécurité privée, qui est directement liée avec le Pentagone et le département d'État américain, qui s'occupe de l'éradication de la coca.
Oui, soi-disant, parce que en vrai, c'est une éradication dans les régions de guérilla, mais pas dans les régions de paramilitaires.
Les deux alibis qui marchent à tous les coups, c'est la lutte contre la guérilla et la lutte contre les narcos.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est vrai. Ça, c'est deux arguments inépuisables.
Oui, c'est vrai. Oui.
Dès que vous critiquez ou vous mettez en lumière ce fonctionnement, immédiatement, vous êtes accusé de sympathie avec la guérilla.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'argument très vieux des gouvernements colombiens. Pourquoi le peuple colombien a élu deux fois à Uribe comme président? Il y a beaucoup d'explications. Par exemple, l'épuisement des mouvements sociaux, la plupart des mouvements sociaux ont été épuisés à cause des massacres, presque tous les leaders ont été tués, les syndicats, les mouvements paysans et tout ça. Ils sont des mouvements très faibles maintenant. Une autre cause, je crois, c'est le problème des masses médias, moyens de communication sociale. Je crois qu'il y a un lavage de cerveau permanent, puisque la plupart des moyens de communication sont dans les mains des plus riches, des grandes entreprises. Ami d'Uribe, et il choisit tous les jours les informations pour appuyer une stratégie du gouvernement. Et puis il y a d'autres raisons. Par exemple, quand j'ai lu un livre d'Eric Fromm, qui s'appelle « La peur de la liberté », Eric Fromm explique pourquoi Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. C'est très semblable la situation en Colombie, puisque c'est la classe moyenne qui est dans un moment d'expansion du capitalisme global, qui se sent un peu faible face à la compétition ouverte globale des marchés. Et cherche un chef très fort. C'était la situation en Allemagne. C'est très semblable là.
Vous êtes en train de dire que face à l'ouverture des marchés, qui donne évidemment une inquiétude et qui accroît la compétition, l'instabilité, le sentiment d'instabilité et de sentiment d'insécurité,
quand c'est comme ça, on veut un chef. On se replie sur un chef.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Qui est très semblable à la situation actuelle de Colombie.
C'est-à-dire que la Colombie est une fausse démocratie, c'est une démocratie de surface.
Oui. Eduardo Galeano a inventé un mot. Démocradura.
Démocradura. La démocrature.
Démocrature. Démocratie et dictature. Il a rassemblé les deux mots. C'est ça.
J'avais une vez un gâteau chiquitico.
Il nous remercie de les avoir accompagnés jusqu'à Partado dans la marche aujourd'hui.
Vous devez être épuisé là, vous devez être crevé ça.
Oui, on est fatigué.
Vous avez 24 km à pied, sous la pluie, dans la boue.
Hein? En bus.
Ah, en bus, nous on était dans le bus.
Ah, vous étiez dans le bus.
On remontait. On a marché pour descendre.
Et on est remonté en bus.
Et on est remonté en bus.
D'accord. Bon, mais vous travaillez dans les champs là demain?
Si Dios quiere.
Si Dieu le veut. Le veut bien.
Et qu'est-ce que vous écoutez, la musique là? C'est quoi la musique?
Ranchera.
Ranchera.
Ah, colombiana.
Colombiana. Si. Colombienne.
Mm. Et vous faites des balles de temps en temps, vous faites des fêtes, vous dansez ici, la communauté?
Si, hacen fiestecita.
Oui, oui, on fait des petites fêtes, oui.
Ok, en tous les cas, c'est une réussite, hein, votre expérience là.
Quand vuelven ustedes por acá?
Quand est-ce que vous revenez par ici?
Ah, ça, on ne sait pas, mais on espère revenir, en tout cas, pour voir des gens comme vous, on est toujours prêts à revenir.
Ah, si, claro.
Non, mais c'est vrai, vous faites un travail très important.
Oiga, pero qué lástima que ustedes se van tan ligero.
C'est dommage que vous repartiez si vite, aussi léger.
Eh oui, mais... Ah, il a coupé la musique, c'est dommage. Il faut qu'on rentre à Bogota et après à Paris.
Ah... Bueno, que vaya bien todo.
Bueno, que les vaya bien a ustedes.
Gracias.
Ah ouais, ça la musique. Ils sont très très forts les Colombiens. Merci à tous. C'était un reportage avec Guy Vanctil et Antoine Chao. Merci à tous les amis de la communauté de paix de San José de la Partado, à Aaron, Vladimir, Jesús Emilio, Ravir et Fabio, et Giraldo, Diego Pérez, Wilson Gavi, Gloria Cuartas, Carmelina, Juanita, merci à Laurence Mazur et Maurice Lemoine. Un film, je le rappelle, sur cette communauté, Hasta la Última Piedra, de Juan José Lozano. Et puis toujours ABC Colombia d'Enrica Coluso, produit par les films d'Issili. Vous avez... Ah oui, alors une pétition à signer, Sauvons la Recherche. Vous pouvez le faire en allant sur le site www.sauvonslarecherche.fr. Sauvons la Recherche, tout attaché. Et puis, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les reportages des 11, 12 et 16 janvier 2006 sur l'immigration clandestine à Mayotte sur le site www.la-ba.org. Tous les renseignements sont sur le site France Inter, là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Eric Morin, Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission. Modeste et géniale, assisté de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Imbert qui se tient prêt du répondeur avec ses grandes oreilles au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il attend vos messages.